vous avez entendu mon entrée en matière. Je dois pas être le seul qui se dit tant que je les vois pas, c'est tel que tel. Mais je veux qu'on commence l'entrevue autrement parce que j'ai fait quelques recherches là sur Internet et bon, on dit que y aurait une ferme d'insectes à Frelischburg. Ça c'est au Québec qui produit des ténébrions meuniers et je comprends que cette ferme-là serait venue au monde quelque part en 2017. Est-ce que vous connaissez et est-ce que quelque part ça vous a inspiré?
Ben, c'est une ferme que justement on est allé visiter, moi et Antoine, au-dessus d'un an déjà. Inspiré, c'est, disons que c'est pas là qu'on a été chercher nécessairement de l'information supplémentaire. On était déjà beaucoup avancé dans le projet, mais oui, on voulait voir ce qui se faisait déjà dans la province. On disait des ténébrions meuniers. En fait, c'est la larve de ténébrions qu'on vient vraiment se servir pour la transformation alimentaire dans leur cas.
Ouais. Et dans votre cas, à vous, est-ce que ce sont la même famille d'insectes ou est-ce que c'est autre chose?
Non, c'est complètement différent. En gros, le ténébrion meunier, la fameuse larve, c'est souvent, on appelle ça par ici les vers de farine,
ouais.
Autrement dit.
Et quand on va sur Internet, mettons, et qu'on tape, moi j'ai tapé les insectes nutrition, il sort un paquet de titres comme « Trois raisons d'intégrer les insectes à votre répertoire alimentaire »,« Apport nutritionnel des insectes »,« Manger des insectes, c'est écolo »,« Les protéines d'insectes »,« Mangerons-nous tous des insectes en 2050 ». Donc, on n'est pas, comme on dit, on n'est pas en train nécessairement de défricher un nouveau territoire. Il y a plein d'écrits là-dessus déjà et les preuves sont faites que les insectes sont peut-être la voie de l'avenir. Même moi, j'ai déjà lu que le tiers-monde pourrait ne plus jamais avoir faim si on était capable de produire suffisamment d'insectes pour nourrir ces gens-là.
En effet, c'est vraiment considéré en ce moment par les agences mondiales comme une alternative ou du moins une des solutions très concrètes pour limiter et venir aider à ce qui est de la faim dans le monde. Par rapport à plein de facteurs, en ce moment, on s'entend côté écologiquement parlant. On sait qu'on est en train de vraiment s'hypothéquer par rapport à la façon qu'on mange en général dans le monde. Sinon, c'est tout simplement de voir le fait qu'on sait très bien qu'en ce moment, la population mondiale monte à un rythme très alarmant. Fait qu'il faut trouver des alternatives, il faut trouver des façons ouais. plus efficaces pour se nourrir.
Pour nourrir la planète, finalement.
C'est en plein ça.
Parce qu'on est déjà dans un scénario présentement où on produit moins que les besoins réels en termes d'humains sur la Terre, si on veut. C'est la raison pour laquelle il y en a qui mangent beaucoup puis d'autres pas assez, là.
Non, c'est en plein ça. De la façon qu'on est en train de se nourrir, c'est sûr qu'on s'en va tout droit vers un mur. Fait que on n'aura pas le choix de s'adapter. Puis ouais. Je pense que ça va arriver pas mal plus rapidement qu'on peut le penser.
Monsieur Dion, allons vraiment dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a comme placé nos pièces là pour qu'on comprenne l'importance de ça, comment vous est venue l'idée d'élever finalement des insectes pour en faire un substrat alimentaire?
Ben première chose. Il faut dire, on est loin d'être les premiers à avoir cette idée-là. On s'entend, là, c'est de quoi qui a fait ses preuves un peu partout dans le monde. C'est de quoi qui a commencé à être poussé beaucoup plus en Europe dernièrement. Même, je dirais, aux États-Unis, où il y en a plusieurs qui commencent à placer leurs pions tranquillement, pas vite. C'est plusieurs petites entreprises de notre genre qui sont incubées un peu partout, puis qui commencent à faire énormément de tests, commencent à faire ça à plus grande échelle. Pour voir ce que ça va donner. On voit le potentiel, autrement dit.
Et là, monsieur Dion, il y en a vraiment là de toutes les sortes. C'est-à-dire autant des personnes ou des fermes d'élevage qui vont produire des insectes qu'on va, appelons ça, transformer, c'est-à-dire pour faire de la poudre. Il y en a d'autres qui vont carrément les servir dans des recettes. On a commencé, il y a peut-être déjà, ma foi, 20-25 ans, à faire des dégustations d'insectes apprêtés de différentes manières. Donc, on est dans un processus qui évolue. La question que je vous pose, est-ce que ce processus-là, ou cette pensée-là d'avoir recours aux insectes, selon vous, évolue quand même rapidement?
Oui, la rapidité augmente, ça c'est certain, surtout par rapport à en Amérique du Nord. Je pense que c'est parce que la question se pose beaucoup, le côté dégoût, tout ça par rapport aux insectes. Première des choses, moi quand j'arrive en présentant ça, je vais tout simplement dire, les insectes, côté évolution, c'est tout simplement des crustacés qui sont sortis de l'eau. déjà là, on s'entend, si on regarde un homard de près, c'est pas bien même plus beau que ce qu'un grillon va être en tant que tel. Puis côté, il y a plusieurs choses qui vont se rapprocher, même côté valeur nutritive.
Ouais.
Puis c'est une question d'éducation, c'est une question de culture. Il y a des choses qu'on mange, justement, le fameux homard, il n'y a pas si longtemps que ça, ça a même déjà été vu comme de la maltraitance de donner ça aux prisonniers plus que 3 fois par semaine.
Ouais, ouais.
Ça, c'est des faits, là. Puis c'est comme si on va à l'inverse. Quelqu'un peut aller à Dubaï en ce moment, puis il va payer cher dans un restaurant chic pour manger une assiette de grillons.
Ouais. Le processus de la ferme à l'assiette, comment on pourrait l'expliquer? Dans le fond, vous élevez des insectes, mais qu'est-ce qui vous sert là-dedans? Est-ce que c'est la larve de l'insecte? Est-ce que c'est l'insecte une fois devenu adulte? Comment ça fonctionne?
Dans notre cas, il n'y a pas question de larve. C'est vraiment juste des œufs qui vont éclore après environ 10 jours. Par la suite, on parle d'un cycle complet, ça va être en environ 6 semaines. Du bébé jusqu'à l'adulte, pendant ce temps-là, il va avoir le temps de s'accouper, il va avoir le temps de faire des œufs, les femelles vont avoir pondu. Mais c'est sinon dire que nous, en tant que ferme, on est vraiment juste des producteurs. On fait la fameuse farine qui est tout simplement une déshydratation de l'insecte par la suite qu'on va broyer. C'est sûr que plusieurs étapes avant, on s'entend côté salubrité et tout. Mais nous, notre but, c'est simplement d'aller fournir par après les transformateurs à plus grande échelle, les restaurateurs, parce qu'on serait surpris à quel point qu'il y en a en ce moment qui font déjà et plusieurs d'autres qui sont intéressés. Et sinon, monsieur, madame, tout le monde, via une plateforme en ligne, tout simplement pour des petites quantités chez eux pour faire leur propre cuisine.
Est-ce qu'il se pourrait que dans certains restaurants, on utilise déjà, par exemple, de la poudre d'insectes dans certaines recettes et qu'on le sait pas, parce qu'on n'est pas obligé de nous le dire?
Non, ça, de ce côté-là, je pense que c'est au contraire les gens, parce qu'en ce moment, disons que l'offre est assez limitée. C'est entre autres pour ça qu'on vient s'installer en ce moment. Mais quelqu'un qui prend la peine de l'ajouter à ses recettes, au contraire, il va s'en vanter, là, parce que le but, on s'entend, c'est les grillons, les insectes en général, c'est un peu les sushis de 2020, si je peux le dire comme ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, de voir de la viande crue, c'est pas de quoi qui allait nécessairement attrayer beaucoup de gens. Tandis qu'aujourd'hui, on voit que il y a un gros buzz, les gens sont intéressés. Ben là, c'est un peu la même chose. Les restaurateurs, souvent, vont les utiliser pour leurs pâtes, ou sinon, je peux prendre exemple encore sur le propriétaire du chez Victor Sainte-Foy à la Pyramide à Québec. Eux ont fait un spécial l'an passé à l'Halloween, qui faisait un burger tout simplement fait avec une boulette qui était faite avec de la farine de grillon. Puis ça a eu un succès fou. Les gens, c'est vraiment, on va chercher piquer la curiosité. Les gens ont le goût d'essayer des nouvelles choses. C'est entre autres pour ça, en ce moment, qu'on voit que le processus s'accélère.
Évidemment, il y a toutes sortes de questions à poser, M. Dionne, parce qu'on connaît pas ça, mais des insectes dans une ferme comme la vôtre, où on élève des grillons à grande échelle, est-ce qu'on élève ça par milliers ou par millions?
C'est par millions, assurément. Si on veut aller chercher des quantités vraiment de grande échelle, même par rapport, tu sais, en ce moment, notre ferme, on peut déjà dire de loin que c'est une à grande échelle. On parle quand même d'au-dessus de 6000 pieds carrés de surface pour l'élevage, mais ça reste quand même juste une phase 1, parce qu'on sait qu'on peut aller vraiment plus loin avec ça.
Et lorsqu'on élève des grillons, pas des grillons, mais quand on élève des insectes, parce que bon, pour moi, la sorte d'insectes que vous élevez, c'est pas vraiment important, là. Premièrement, mais peut-être que ce qui est important à poser comme question, est-ce que vous, dans votre ferme d'élevage, est-ce qu'il y a une sorte d'insectes ou il y a différentes sortes d'insectes?
En ce moment, on s'est spécialisé tout simplement dans une sorte d'insecte. Soit le grillon à bande noire, puis si on n'aurait pas le choix de partir dans trop de directions en même temps, ça aurait vraiment été plus compliqué.
Okay.
Mais il faut savoir qu'il y a quand même une législation qui est en place puis qui devient de plus en plus grande au fur et à mesure que le marché se développe. C'est pas n'importe quel insecte en ce moment qu'on peut commercialiser au Québec, là, puis ça s'adapte d'année en année, mais c'est le grillon, la race qu'on avait, on peut, mais c'est quand même limité de ce côté-là.
Ouais.
On n'aurait pas pu aller vendre n'importe quoi.
Un grillon, ça vit où, puis ça mange quoi, ça? Parce qu'un grillon, on est habitué d'entendre chanter ça un peu, puis de se dire, ben coudon, ça doit vivre dans terre ou ça doit vivre dans l'herbe, ça mange quoi? On le sait pas trop. Comment ça vit, comment ça se nourrit, ça, un grillon?
Un grillon, c'est vraiment pas difficile. Il y a des places dans le monde, justement, où ce que côté ressources alimentaires sont plus limitées, qui vont être capables de les faire manger via, mettons, les restants de table, beaucoup par rapport aux fruits et légumes, c'est périmé, il n'y aurait aucun problème là. Nous, on s'entend qu'on va aller chercher de quoi d'un grade alimentaire de haute qualité, fait qu'ils sont nourris de la même manière que n'importe quel type d'élevage serait fait, c'est-à-dire que on va chercher de la moulée, on a une recette faite exprès par rapport à leurs besoins nutritifs. Sinon, pour ce qui est de l'environnement dans l'élevage, vu que nous, c'est du grand échelle, ça reste qu'ils sont dans des enclos qu'on appelle en liberté. C'est vraiment pas des petits bacs individuels. Vu qu'on fait ça à grande échelle, ça serait vraiment trop demandant d'y aller par petits bacs comme ça, là. Mais en gros, c'est que le grillon adhère très bien à la texture du carton en général. Puis ça, déjà, les élevages, même qui sont faits, il y en a chez monsieur, madame, tout le monde qui en font des petits élevages, admettons, pour leurs reptiles, ils vont utiliser des craques d'œufs. Nous autres, dans notre cas, vu que c'est à plus grande échelle, c'est tout simplement des quadrillés de carton qu'on va trouver dans des boîtes où il y a des bouteilles.
Oui. Puis le grillon, il vit là-dedans? Ou?
Oui, c'est ça, il va adhérer là-dedans, il va se promener, tu sais, c'est très mobile. On s'entend, une chose qui est quand même intéressante avec le grillon en particulier versus d'autres types d'élevage, c'est que côté lumière, c'est pas de quoi qu'il y a nécessairement besoin. Puis même qu'il est plus à l'aise quand c'est sombre. Autrement dit, nous, quand on vient ouvrir un enclos, qu'on ouvre la lumière, on voit énormément de mouvements, ils sont partout, versus si on fait juste attendre environ 5 minutes, la grande majorité va être partie se cacher dans l'ombre.
Oui, oui. Ouais.
Ça vient aussi simplifier.
Donc, c'est quand même intéressant dans ce que vous venez de nous expliquer là, que même le grillon, si on veut qu'il soit de bonne qualité par rapport à ce qu'on va faire avec, a besoin d'être nourri avec ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas si j'exagère, un régime équilibré.
Oui, c'est comme n'importe quel type d'élevage, il n'y a rien qui change à partir de là, c'est un organisme vivant, ils ont tous des besoins en particulier quand on veut le faire pour l'élevage. C'est un ratio tout simplement toujours, comme je disais, c'est pas réinventé, c'est pareil pour le porc, c'est pareil pour le bœuf, le poulet, c'est d'aller chercher les bons besoins, si on veut, en termes de glucides, de protéines, ça change pas de ce côté-là.
OK. Hey, dites-moi, naturellement, si vous vous êtes lancé là-dedans, vous avez bien sûr de la vente à faire, de la distribution à faire. Ça, c'est l'autre côté de la business qui doit être aussi géré très serré. Comment fonctionne votre réseau de distribution? Puis, vous avez certainement des visées à l'international. Est-ce que vous devez faire affaire avec des firmes qui travaillent en import-export? Comment ça fonctionne?
Bien, pour commencer, il faut savoir notre but premier, vu que ça reste qu'un des gros fournisseurs qui est en Amérique du Nord, ça se trouve être en Tomoform en Ontario. Si on est là aujourd'hui, c'est justement en particulier parce que eux arrivent vraiment pas à fournir, sont même très loin de pouvoir, considérant que leur offre augmente pas vite, mais la demande, elle augmente à un très grand rythme. Notre premier but, c'est de s'établir sur le marché francophone. Ça, c'est sûr et certain. À partir de là, on va voir ce que ça va nous mener. Mais
pourquoi vous dites le marché francophone?
Parce que en Tomoform, en Ontario, on a énormément de demandes. Ils vont beaucoup envoyer aux États-Unis, beaucoup en Europe. Ils vont envoyer dans le reste du Canada. Ils envoient aussi ici au Québec. Mais comme je dis, c'est d'une certaine manière, en ce moment, surtout les transformateurs francophones sont en quelque sorte limités. Moi, je dirais négligés. Fait que c'est tout simplement d'aller fournir, ça reste que nous autres, notre projet, s'il y a une visée locale là-dedans, ça reste qu'on avait le goût, Antoine et moi, on est deux personnes qui ont étudié, on est partis, moi je suis allé à Montréal, lui étudie à l'Université Laval en chimie. Notre but, c'était de revenir, c'est de se réétablir, puis ça reste que faut savoir qu'il y a des fermes en ce moment, des Québécois ou des gens qui vont souvent aller s'installer dans des places beaucoup plus chaudes, comme dans le sud des États-Unis. Et nous, on voulait montrer dans notre modèle d'affaires que c'était possible d'avoir une ferme sur mesure autant rentable en restant au Québec.
Oui, oui. Mais donc, c'est un élevage en serre?
En quelque sorte, c'est sûr, parce que ça demande, on s'entend, de la chaleur, une humidité particulière, tu sais, des conditions abiotiques qui sont quand même poussées.
Oui, oui.
Donc, on parle d'un côté énergétique un peu plus demandant, mais il y a moyen d'aller chercher des alternatives pour être autant efficace. C'est ça qu'on est en train de trouver en ce moment.
Non, parce qu'on s'entend qu'un grillon au Québec, l'hiver, ça doit être en hibernation. Je sais pas comment on appelle ça. Là,
non, exactement.
Ça vit pas l'hiver.
Hibernation.
Oui, oui. Merci à vous.
Un énorme merci à vous.
Bonne journée, Maxime Dionne, jeune entrepreneur du Kamouraska, ferme d'élevage de grillons.